suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. À la fin de sa vie, Michel Foucault a résolument défendu la nécessité, pour lui et pour les autres, d'une stylistique de l'existence. Dans le sillage de l'auteur du souci de soi, d'autres, Judith Butler et Richard Schusterman par exemple, ont insisté, et ils ont eu l'occasion de le faire à ce micro, sur l'idée d'une vie comme performance. À rebours de cette perspective esthétique, la critique littéraire Marielle Massé propose aujourd'hui d'hériter de cette attention au style, aux formes de nos vies, mais de le faire avec une ambition considérable, anthropologique. Dans Style, un essai dense et déjà indispensable qui paraît lundi, un livre qui témoigne, comme toujours chez elle, de manières de lire à la fois singulières et généreuses, insatiables, elle propose de faire avec le style ce qu'autrefois Ricoeur a accompli avec le récit, à partir d'une notion littéraire, faire émerger un concept anthropologique, moral, politique, rien moins. Marielle Massé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse au CNRS, au CRAL, laboratoire de l'École des hautes études en sciences sociales, et vous publiez donc Style, critique de nos formes de vie, un essai qui paraît dans la collection Essais de chez Gallimard. Dans ce livre qui fait suite à Manière de lire, et on voit bien comment les livres s'enchaînent, cet intérêt pour les manières, parce qu'au fond, derrière ce mot de style, c'est aussi des manières de faire, d'être, de voir, de sentir, de penser, que vous explorez ces formes. Vous vous fixez pour ambition, et je le notais, elle est considérable, de préciser, de clarifier, de rendre opératoire, au fond, ce concept qui est un peu suspect, on va dire, dans les sciences sociales. En tous les cas, j'ai été frappé, en vous lisant, de voir à quel point, même s'il est suspect, il apparaît dans les textes d'auteurs dont j'aurais pas spontanément imaginé qu'ils l'avaient utilisé. Alors certes, certains l'utilisent peu, mais néanmoins, on le trouve chez Claude Lévi-Strauss, on le trouve chez Pierre Bourdieu. Je vais pas tous les citer parce que votre livre est une promenade, un dialogue, des discussions serrées avec nombre d'auteurs que vous avez lu et travaillé. Et en tous les cas, je voulais qu'on parte de ce constat, finalement, d'une présence plus forte qu'on aurait pu l'imaginer, mais dans des sens assez différents, de cette notion de style que vous allez transformer en un véritable concept.
Oui, en effet, ça a été le point de départ du livre, d'observer une espèce d'omniprésence et même de saturation pour la période contemporaine, des réflexions sur l'existence individuelle, collective, sociale, historique. Donc l'omniprésence des mots du style lorsqu'il s'agit de qualifier la vie et notamment lorsqu'il s'agit de qualifier ce qui compte dans ce qu'on a à dire de la vie.
Ce à quoi on tient,
soit qu'on veuille le critiquer, soit au contraire qu'on veuille y encourager. Et alors je dis les mots du style parce qu'en effet j'ai cherché à ne pas brandir ce mot-là, disons pour en faire un concept irremplaçable. Je prends dans ma besace les manières, les façons, les modes, les modalités, les formes, mais j'ai gardé ce mot style parce qu'en effet c'est le plus irritant, disons. C'est celui qu'on ne peut pas citer sans le mettre entre guillemets, c'est celui qu'on ne peut pas citer sans faire lever des irritations, des goûts, des dégoûts. Et donc j'ai gardé ce mot style alors même que c'est peut-être celui qui est le moins solide d'un point de vue épistémologique. Mais je l'ai vu courir en effet dans les façons de décrire la vie de Nietzsche à Gamben, de Foucault à Bourdieu et surtout lorsqu'il s'agit effectivement de tenir un discours final, en effet. C'est un mot de la conclusion sur ce qu'on veut dire de la vie et en même temps c'est un mot d'une opacité, d'une dispersion, d'une conflictualité interne très très grande. Et donc en effet j'ai cherché d'abord à essayer d'éclairer les positions différentes Voilà, de comprendre ce qu'on dit quand on dit façon de faire, manière d'être, style de vie, et de comprendre à quel point on ne dit pas la même chose et on n'est jamais, comment dire, indemne d'un engagement, d'une colère, d'une critique ou d'un désir quand on prononce ces formules-là.
Alors c'est la démarche d'une littéraire, de quelqu'un qui vient avec comme allié la littérature, avec un certain nombre de ressources que sont des textes que vous connaissez bien. Alors on retrouve dans cet essai Balzac, on retrouve Baudelaire, mais on retrouve aussi Ponge, on retrouve Michaud, pour n'en citer que quelques-uns, et Pasolini qui est peut-être le premier des alliés en quelque sorte dans cette démarche. Allié pour aller à la rencontre d'un autre univers, parce que c'est aussi un livre de rencontre pour vous. Du moins je l'ai lu comme ça, la rencontre de ce continent des sciences sociales que vous arpentez de long en large et que vous faites dialoguer avec la littérature. Et on voit bien la gêne à l'endroit de ce mot de style, elle me semble de deux ordres. D'une part parce qu'elle renvoie au littéraire, et c'est voilà, ce qu'il y aurait de plus pur littéraire, au fond, le style, et ça gêne les sciences sociales. Et l'autre gêne, elle est liée plutôt aux effets de théorie que les sciences sociales ont produits dans le monde ordinaire et aux récupérations dont la notion de style, qui est par exemple proposée par Max Weber, de style de vie, puis affinée par Pierre Bourdieu, va être récupérée dans le discours du marketing, de la publicité. On connaît ça par cœur, le lifestyle en particulier. C'est cette double gêne au fond autour de la notion que vous clarifier, Marielle Massé.
Oui, j'ai pas cherché à nettoyer le mot de ses ambiguïtés. Et ça, je pense effectivement, c'est un engagement de littéraire. Alors, c'est vrai que c'est un livre. Voilà, moi, j'enseigne la littérature, j'écris sur la littérature, mais c'est pas un livre sur la littérature. Et j'ai utilisé ce mot-là, d'allié. La littérature est mon allié, en effet, parce que je la conçois comme cet espace où se médite la question du comment. Comment on vit? Comment vivent les autres? Comment a-t-on vécu? Comment devrait-on vivre? Où se médite donc le sens du comment sans qu'il puisse se fixer. Alors qu'il m'a semblé que dans l'univers des sciences sociales, qui est un espace considérable d'éclairage et de mise en débat de ce qui compte pour chacun d'entre nous, ce sens des mots du style est souvent fixé d'emblée. On sait ce qu'on va chercher dans un geste, dans un rythme. Soit qu'on veuille y chercher effectivement un plan de l'aliénation ou de la domination qui se vérifie jusque dans la façon dont on parle, dont on s'habille. Soit au contraire qu'on y cherche des ressources d'émancipation, etc. Et donc il m'a semblé en effet que une attention à la littérature et une attention par la littérature pouvait avoir sa vertu, son utilité pour en quelque sorte déclore ces mots-là, les faire un peu exploser, montrer qu'ils sont explosifs. Et d'autre part, pour ce qui est du deuxième aspect de la question que j'ai déjà oublié.
Sur le marketing, sur la récupération, de cette notion de style pour des usages...
Pour des usages violents, dominants, ou dans lesquels malgré tout on insuffle nous-mêmes une grande partie de nos formes de vie, dans les objets qu'on désire, c'est quelque chose qui m'a semblé très important et c'est un point de discussion assez serré dans le livre en effet autour de la notion de distinction, puisque j'essaye de différencier des approches du style, des façons d'entendre ce mot-là et donc des chances de signification et même des chances de vie qui peuvent être engagés dans ces questions.
Il y a des pages formidables sur la distinction, le livre paru au milieu des années 70 de Pierre Bourdieu. Mais avant qu'on y vienne, finalement, cette question, vous l'abordez par la littérature. Et ça vous permet aussi, et c'est très important dans votre démarche, d'historiciser cette question du style.
Oui.
Je pense notamment à ce que vous dites de ce très bref laps de temps qui sépare l'œuvre de Stendhal de celle de Balzac et la manière dont Balzac va faire advenir, au fond, cette question, cette approche du style par la distinction.
Oui.
Le premier, d'une certaine façon, aussi éclatante.
Voilà, d'une façon aussi nerveuse, en fait. C'est ça qui m'a plu dans le constat du fait que, je suis évidemment pas la première à le dire, du fait que Balzac a perçu quelque chose d'un nouveau régime du sensible, d'une nouvelle esthétique du social. Et ce que j'ai perçu, c'était qu'il en disait un petit peu plus, évidemment beaucoup moins qu'un Bourdieu, mais qu'il disait autre chose, qui peut être seulement dit par un écrivain qui, comme... Baudelaire le disait, étudie le crime dans son propre cœur. Et donc Balzac, il étudie le besoin de distinction dans son propre cœur, et ce qu'il comprend, c'est le caractère nerveux, irrité, irritant de ce nouveau besoin social et donc de ce nouveau grain du monde commun, du monde partagé. Et effectivement, il m'a semblé que c'était là un point de rupture très grand par rapport à ce que pourrait vouloir dire stylistique de l'existence pour un Stendhal qui songe à des figures de la Renaissance et qui, pour sa part, reste engagé vers l'affaire de donner à sa vie une forme harmonieuse, d'obéir à une injonction intérieure, de viser un naturel qu'on construit soi-même. Et j'ai trouvé que l'apparition de la rage de distinction chez Balzac, qui dit désormais chaque homme fatiguera son génie à se distinguer, avait une grande force parce qu'elle ajoute à l'idée sociologique de distinction quelque chose comme une charge affective qu'on reconnaît très très bien. On est tous sujets à cette nervosité-là.
Alors le style comme distinction, c'est l'une des trois manières au fond d'approcher le style que vous proposez dans cet essai, Marielle Masset.
Oui. C'est
le style comme distinction, le style comme modalité et le style comme individuation.
Oui.
Peut-être on peut essayer d'expliciter au moins
oui.
les grandes lignes, parce qu'on
oui.
ne va pas rendre justice à la richesse de cet essai en 30 minutes. La distinction, on en a dit quelques mots déjà, mais la première modalité du style, c'est justement cette notion de modal, enfin
de
du
modal,
style
de
comme
mode. Oui.
Comme mode.
Alors, en effet, et peut-être pour éclairer le fait que j'ai cherché à mettre de l'ordre, en fait, dans des pensées du style, en effet, ce qui m'a paru le plus important, en fait, dans cette question, c'est son caractère conflictuel. C'est qu'effectivement, on ne s'entend pas et on n'a pas à s'entendre, en anthropologie, en sociologie, sur ce qu'on entend par forme de vie. Et il m'a semblé que le mot du style, c'était un mot de la valeur, et que ça désigne qu'il y a là un terrain où s'affrontent des valeurs, et pas seulement pour les personnes, tout le monde, les personnes que nous sommes, qui s'affrontent à coups de forme dans la vie ordinaire, mais aussi pour tous ces penseurs et ces écrivains qui cherchent à qualifier la vie. Et j'ai voulu montrer qu'à chaque fois qu'on qualifie la vie, on prend son parti, en fait. On prend son parti sur ce qu'on est prêt à recevoir comme une forme, comme une façon de faire. Et en fait, on prend son parti sur la vie qui compte, sur ce à quoi on veut rendre les autres attentifs. Et donc, j'ai voulu mettre en avant cette guerre, en fait, cette guerre autour des sens du style, plutôt que proposer ma notion en disant, parce que ça m'a amusé de voir que chaque fois qu'on définit le style, on explique que personne n'a rien compris avant, mais que le style, c'est ça. Et donc, c'est ce désir de statuer qui m'a semblé être un indice du caractère. Il s'agit là de conflit de qualification.
Il y a un auteur important de ce point de vue-là, c'est Michel de Certeau,
oui,
pour vous.
Oui.
Mais il y en a un qui est peut-être plus surprenant, parce qu'on l'associe à des sciences sociales comparatiste et classificatoire, c'est Marcel Mauss,
oui,
dont vous citez une phrase étonnante qui invite à mettre l'accent sur l'observation beaucoup
oui.
plus que sur la comparaison.
Oui, alors effectivement, et ça me permet de revenir à cette première approche du style comme modalité. C'est le point de départ que j'ai voulu donner à ce chapitre-là. Cette petite phrase de Mauss dans Les techniques du corps, donc dans ce texte du début des années 30 qui réfléchit à la variabilité de nos façons de nous servir de notre corps et du fait que c'est notamment par là que nous sommes traversés de social, que nous sommes communs dans nos gestes, ils ne nous sont pas propres, ils nous viennent de l'intelligence collective ou au contraire de l'incapacité collective. Et la phrase de Mauss qui m'a beaucoup intéressée, c'est qu'il précise que dans ces affaires-là, tout est à observer et non pas à comparer. Et donc le style comme modalité, il m'a semblé que c'était vraiment très bien engagé dans cette phrase-là. Le style comme modalité, c'est simplement le fait de considérer qu'il n'y a pas de vie, il n'y a que des formes de vie. Il n'y a pas de vivant, il n'y a que des allures du vivant. Il n'y a pas d'être, il n'y a que des manières d'être. Et Ponge, Mauss, Certeau, Latour, toute une série de, quand Guillaume, toute une série d'auteurs m'ont semblé engagés dans cette vision-là de la vie ou du vivant comme espace de variance où la vie se phrase elle-même, où la vie varie sur ses propres possibles. Et dans cette vision-là du style, il s'agit d'observer un pluriel. C'est le pluriel des façons d'être qui est la valeur. Et chez Mauss, c'est très manifeste. Il parle du divers, comme le faisait Ségalène. Voilà, il s'agit d'entrer dans le registre du divers, et où ce qui compte dans la vie, et notamment dans la vie humaine, c'est qu'elle est toujours d'une certaine manière. Et que c'est le projet même de la sociologie des pratiques ou de l'ethnologie, d'observer cette variabilité des formes de vie, des façons de faire.
Le dernier auteur en date que vous citez à ce propos, c'est Bruno Latour qui, oui, a proposé un livre important d'anthropologie et de philosophie des modes d'existence. Oui. On trouve cette notion de modalité comme une grammaire, au fond, de ces modes d'existence.
Oui, oui, oui. Latour dit que l'enjeu de son livre, c'est de compter au-delà de trois, d'être attentif justement à cette sorte de pluralisation constante de la vie, qui, par exemple, aujourd'hui, est très, très, très investie dans le regard qu'on porte sur ce que Jean-Marie Schaeffer appelait la fin de l'exception humaine, le fait qu'on n'est pas les seuls vivants, et que justement, comprendre la façon dont on veut vivre aujourd'hui, ça consiste à tenir compte, comme d'un test politique, tenir compte des autres modes d'existence qui nous entourent, et notamment de leur vulnérabilité. Cette vision du style comme une sorte de foule des modes d'être, ça m'a semblé être toujours engagé vers un désir de protéger des possibles, d'être attentif à la vulnérabilité de toute forme de vie, animale, sociale.
D'où des pages sur le style de vie animal, oui, que vous explorez un petit peu, oui, dans ce livre. Compter au-delà de trois, on voit bien que l'approche est complètement différente, que ce qui préside à toutes les réflexions en termes de distinction, qui, oui, elles, reposent sur des couples, oui, sur des dualismes, sur des oppositions, oui, qui sont au fondement d'une pensée structurale. Lévi-Strauss, bien sûr, mais Bourdieu, dont on, oui, parlait, et tout votre chapitre sur le style comme distinction, oui, insiste sur ces stratégies, au fond, de démarcation qui sont à l'œuvre dans beaucoup de nos comportements, de, oui, nos manières d'être et de, oui, manières de penser le monde.
Oui, justement, le style comme distinction, c'est une toute autre approche des formes de la vie, où ce qui compte, ce n'est pas cette sorte de joie du pluriel, un peu pacifiante aussi, qu'il peut y avoir chez Ponge, chez Mauss, ou dans l'ordre du social, chez Michel de Certeau, qui voit dans les modes d'être autant de ressources d'échapper, disons, d'une façon d'échapper aux places où on vous attend. Lorsqu'on pense le style comme distinction, de Balzac à Bourdieu, au contraire, on veut insister sur le caractère agonique, sur le fait qu'une prise de forme est toujours un écart, une prise de distance, qu'un goût est toujours un dégoût. Enfin, ce sont des choses très connues pour tout lecteur de Bourdieu, évidemment. Mais il m'a semblé important, d'abord, de montrer que ça n'était pas là un sens unique du mot style, et que c'était là un parti pris qui s'opposait à d'autres partis pris possibles sur les formes du vivre.
On voit bien, c'est une manière, au fond, de revisiter des débats théoriques extraordinairement forts entre des perspectives qu'on pourrait dire hobbesiennes. Bourdieu cite Hobbes dans sa leçon sur la leçon, oui, et ce n'est pas un hasard, et des perspectives que pourtant Bourdieu a non seulement côtoyé, mais qu'il a choisi de publier. Je pense à Richard Hogarth, oui, ou je pense, oui, sinon autrement, au travail d'un autre britannique, historien E.P. Thompson, qui, oui, comme Michel de Certeau, vont insister sur les marges de, oui, manœuvre, au fond, oui, notamment à l'intérieur des milieux populaires, pour, oui, résister aux injonctions de style et développer des propres styles de résistance, en quelque sorte.
Oui, c'est ça. J'ai voulu créer ce dissensus, disons, ou des sortes de matchs entre des façons de regarder le comment de l'existence. Et effectivement, chez Certeau ou chez Hogarth, avec peut-être moins de confiance, mais chez E.P. Thompson, avec beaucoup de confiance.
Et plus tard, chez James C. Scott, par exemple,
oui,
anthropologue américain.
Ou chez Rancière, il y a une confiance dans la notion même d'usage qui égalise en quelque sorte la question du style avec celle de l'agency, comme on dit. Voilà, partout où il y a des prises de forme, il y a des prises sur la vie, il y a des façons de reprendre un petit peu d'initiative, même de façon extrêmement périphérique ou marginale. Et c'est pas un hasard s'il s'agit toujours dans ces pensées-là de qualifier ce qu'on appelle la culture populaire, parce qu'il s'agit toujours de redonner au sujet quelque chose comme une expérience de leurs usages, une expérience de leurs coutumes. Bourdieu, tout en ayant une parfaite conscience de ça, parce qu'il le sait que ça peut se jouer comme ça dans des milieux populaires, lui veut vraiment tourner notre regard toujours et sans aucun relâchement vers ce qui gît à ses yeux, toujours, dans un geste, dans la concertation qu'on a de notre apparence, dans des façons de parler, dans des façons de se tenir. Il veut toujours déceler la part d'assujettissement à la domination, à la violence symbolique. Et il ne tolère effectivement aucun relâchement critique. Et il m'a semblé que c'était très important de dire on a là des partis pris sur le style et des partis pris sur la vie qui sont concurrents, qui sont sans doute qu'on peut tenir ensemble, mais il faut prendre la mesure de ça parce que c'est pas la même vie qu'on regarde, c'est pas le même geste, c'est pas le même homme qu'on espère selon ce qu'on est prêt à voir se lever dans les formes de la vie, selon ce qu'on est prêt à en attendre.
Le style comme modalité, le style comme distinction. Troisième type d'approche que vous proposez, le style comme individuation ou dans une logique d'individuation.
Oui.
Là, c'est la question de la singularité qui se pose. Alors évidemment, vous convoquez beaucoup la littérature, mais aussi quelque chose peut-être à mi-chemin entre la littérature et les sciences sociales, qui est le documentaire. Et vous vous appuyez beaucoup en particulier sur les articles poétiques, de reportages poétiques, on pourrait dire, de James Agee.
Oui. Oui, oui. Alors, le style comme individuation, j'ai voulu en effet montrer que dans une compréhension plus récente, plus colérique, plus inconvenante souvent, des formes de la vie, ce qui compte, ce sont les singularités, les modes d'altération. Et individuation, ça ne veut pas dire qu'on s'intéresse au style d'une personne. Ici, l'individu, c'est un individu qui n'est pas nécessairement humain ou biographique. C'est plus que quelqu'un ou moins que quelqu'un, comme je le dis. C'est une...
Et ça reste social.
Voilà, c'est une configuration. Soit c'est infra-biographique, soit c'est au-delà de la dimension de la vie, et ça peut rester tout à fait social. Donc il y a des gens qui ont une compréhension individuante du social, ou des configurations culturelles ou historiques, comme Salins, par exemple, comme Viveiros aujourd'hui, qui cherchent à décrire, ou comme Apadurai, qui cherchent à décrire les singularités en tant qu'elles ne sont pas seulement des façons de s'écarter d'un modèle dominant, et en tant qu'elles sont toujours altérantes. Et ce sur quoi ils insistent, et c'est quelque chose que j'ai retrouvé aussi chez Philippe Descola, enfin, sans être du tout capable de prendre la mesure de l'ampleur de son travail, mais en reconnaissant chez lui ce désir de dire, voilà, il ne s'agit pas juste d'aller voir un pluriel de modes d'être. Il s'agit de voir qu'à chaque fois, ce sont des altérations possibles de notre propre mode d'être. Et les singularités ont quelque chose... Il y a un effet retour de ce qu'on regarde, dans ce cas-là, sur ce qu'on est. Et il y a quelque chose de compliqué, de difficile, et dont j'ai trouvé en littérature la peinture la plus extraordinaire chez Michaud, chez ce poète de la colère. Et vous parliez du documentaire. En effet, il m'a semblé que le genre même du documentaire, c'était l'espace esthétique où on endosse cette charge de regarder les formes de la vie. Et souvent, on l'endosse avec colère, avec le désir de combattre, avec le désir de défendre certaines formes de vie et d'en accuser d'autres. C'est très évident dans ce grand livre de Agee et Evans, « Louons maintenant les grands hommes », qui se penche sur les conditions de misère des métayers du sud des États-Unis dans les années 30, et dont tout le livre, qui est une sorte de poème documentaire absolument pulvérisé par la force de ce qu'ils vont voir et de ce qu'ils veulent en faire, tout le livre est guidé par cette sorte de... par cette sorte de désir de, d'entrer dans l'arène, d'entrer dans la bataille, de dire « ces vies-là, il faut en tenir compte ». Et d'autres, au contraire, il faut savoir les accuser. Et donc, dans ce chapitre sur l'individuation, j'ai voulu insister là-dessus, sur le fait que les singularités sont toujours des occasions, encore une fois, de prendre son parti.
On a cité beaucoup de noms propres dans cette émission. Il y a beaucoup d'auteurs dans ce livre. Il y a des auteurs qui relèvent des sciences humaines et sociales, puis il y a des auteurs qui relèvent de la littérature. Et quand on referme votre livre, Marielle Massé, finalement, on se dit que c'est pas bien important de ranger ces gens dans des cases. Au fond, ils nous aident à penser exactement de la même manière. Est-ce que c'est aujourd'hui là que vous en êtes arrivé dans votre rapport d'un côté à la littérature, de l'autre aux sciences sociales ?
Oui, tout à fait. À vrai dire, moi, mon premier travail avait porté sur le genre de l'essai dans la période moderne. Et pour moi, c'est un espace qui est demeuré mon bain, le lieu vraiment où je bataille, où je cherche mes ressources. Et effectivement, pour moi, la question n'est vraiment pas celle de savoir où passe la frontière entre la littérature et les sciences sociales. Elle est plutôt de savoir où passe la frontière entre ceux qui acceptent la charge de qualifier la vie et ceux qui en font l'économie parce qu'ils bâclent ou parce qu'ils passent trop vite. Et ici, la littérature n'a pas le monopole de la justesse. Il y a des écrivains tout aussi inattentifs qu'il y a des sociologues et des anthropologues qui, au contraire, sont engagés dans une qualification patiente et responsable et dans un désir de justesse et de justice.
Merci beaucoup, Marielle Massé. Je rappelle le titre de votre livre qui paraît donc lundi, Style, critique de nos formes de vie. Il est publié aux éditions Gallimard. Vous retrouvez les références bibliographiques sur la page de la suite dans les idées sur le site de France Culture, une page où vous pouvez réécouter ad vitam aeternam cette émission désormais. Et vous pouvez également vous abonner au podcast de façon à manquer aucun épisode de la suite dans les idées. C'est la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production. Catherine Denet à la technique aujourd'hui. Jaizan Taous à la réalisation. Jean-Christophe Francis. Et c'est Étienne Klein que vous retrouvez dans quelques instants pour une conversation scientifique sur l'antenne de France Culture.